Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a peut-être deux manières de lire la presse, de regarder la télévision ou d'écouter la radio, bref, de suivre les actualités avec à l'esprit un fond de tous pourris ou d'aquabonisme bonhomme, ou en se sentant partie prenante, conscient que se joue là le cours de la grande histoire. Deux attitudes tout à fait opposées, entre lesquelles chacun aussi peut être souvent. Difficile en effet de regarder l'actualité parfois dans le blanc des yeux, comme ce 12 juin dernier lors de la rencontre historique à Singapour de Donald Trump et de Kim Jong-un, dont l'ONU dit de son régime qu'il n'a rien à envier au nazisme en matière d'horreur. Alors, pour nous aider à mêler conscience et espoir, cette émission. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, grand rendez-vous d'actualité. Dernière émission donc en direct, comme je le disais dans le teasing ce matin de l'émission, puisque nous commençons notre grille d'été ce lundi et nous font l'amitié d'être présents. Bruno Cyr, qui est président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, bonjour.
Bonjour.
Et Tanguy-Marie Pouliquen, qui est religieux, prêtre de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique sociale à l'Institut catholique de Toulouse, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on va commencer, contrairement peut-être à ce que peut le laisser entendre mon introduction, on va d'abord parler crise migratoire. Pour introduire ce propos, le 29 juin dernier a été trouvé, pendant la nuit, 4h30 du matin, un accord à l'arraché entre les différents partenaires européens pour essayer de trouver une solution conjointe à la crise migratoire. À l'issue de cette solution, dont on a dit qu'elle n'en était pas vraiment une, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé « Nous avons réussi à obtenir un accord, mais c'est en fait la partie la plus facile de la tâche qui nous attend sur le terrain. » Quand la tâche la plus facile a été réglée et nous attend sur le terrain la tâche la plus difficile. Que prévoit cet accord de travailler à répartir la charge de cette vague migratoire, alors que l'Italie refuse maintenant l'accostement de certains bateaux? C'est donc entre autres l'Aquarius qui a traîné dans la mer méditerranéenne pendant quelques temps. Elle prévoit l'installation de centres d'accueil. Alors on ne sait pas exactement en quoi ils consistent, ou en tout cas on ne sait pas les pays qui vont les accueillir, sont des plateformes de débarquement de migrants. Et dans les tuyaux, on en parlera peut-être, une réforme de la Convention de Dublin qui régit l'accueil des migrants. Peut-être ma première question, ça sera pour vous, Bruno Cyr. Cet accord vous a-t-il convaincu ou que vous a-t-il évoqué comme première réaction?
D'abord, je trouve que c'est utile, c'est important que les Européens se saisissent de ce problème, parmi d'autres, et arrivent à se mettre d'accord sur une solution. Donc, de ce point de vue-là, je vois un signal très positif pour l'Europe. Et moi qui suis un Européen convaincu, je me dis, il était temps, ça va dans le bon sens. Bon. Après, la question des migrants elle-même, est-ce qu'elle va être réglée par cet accord ? On voit bien que c'est un accord à minima, mais enfin c'est un peu la loi du genre. Quand on discute à 27 avec des gens qui n'ont pas tous une frontière ou qui ne sont pas tous en première ligne, c'est compliqué de trouver un accord qui aille très très loin. Mais ceci étant, est-ce que ce n'est pas un peu un pansement sur une jambe en bois ? Parce que ça ne va pas traiter le problème de la migration, ça va traiter le problème de l'arrivée sur le sol européen d'un certain nombre de gens ne devraient pas y être ou qui peut-être se sont retrouvés embarqués dans des situations qui ne sont pas souhaitables. Donc le vrai problème, évidemment, il est comment aider les pays pauvres pour éviter cette situation où les gens sont obligés de partir de chez eux pour arriver à se nourrir et se retrouvent non seulement déracinés, ce qui pour tout individu est un drame, mais en plus dans un état de précarité et de pauvreté extrême. Et donc je ne pense pas que ces gens soient heureux dans tous les cas, d'arriver en France, même si on met en place des camps et des solutions pour qu'ils arrivent à survivre. Donc, je pense que face à ce problème, il est urgent de se poser la question de l'aide au développement pour que les gens puissent rester dans leur pays et que les pays riches fassent l'effort de faire du commerce équitable avec les pays pauvres pour les aider à s'en sortir, au lieu d'avoir ces drames qu'on est en train de gérer sur la Méditerranée aujourd'hui et peut-être demain par d'autres canaux.
Alors les drames, en l'occurrence, c'est l'actualité s'est cristallisée ces dernières semaines autour de deux bateaux. Le premier, c'était l'Aquarius, donc le 9 juin dernier, 600 migrants. Ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, si je ne me trompe pas, a refusé en fait que ce bateau débarque sur les côtes italiennes. Donc ce bateau a tourné et puis il a fini par trouver un port d'accueil. Et un autre bateau, c'est le Lifeline. Bref, on en est à se disputer pour savoir où les migrants peuvent débarquer.
Oui, mais encore, vous ne parlez pas de tous ceux qui se noient.
Alors, ceux qui se noient, je vais vous dire, depuis le début de la crise migratoire, c'est 40 000.
Il ne se résume pas à deux bateaux, malheureusement.
Depuis le début de la crise migratoire, c'est 40 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. C'est 1 000, ne serait-ce que depuis le début de l'année, même si on dit que la vague migratoire est moins importante. Donc, c'est sûr que ça fait encore des chiffres absolument. Enfin, ça fait, comment dire, effrayant. Ça donne raison au pape François qui parle du cimetière de la Méditerranée. Tanguy-Marie Pouliquin.
Oui, alors. La situation migratoire s'inscrit dans un cadre, à mon avis, à deux entrées, une question politique et une question sociale. La question sociale, les gens sont chez nous, ce sont des personnes dignes, des personnes humaines, des personnes en difficulté, en grande pauvreté, et notre conscience humaine nous invite à les accueillir. Alors, à discerner s'ils vont rester ou pas rester. Moi, je parlerai le rapport là, des deux députés sur la République en échec, le rapport donc du phénomène migratoire dans la Seine-Saint-Denis, qui est très révélateur d'un problème à l'échelle de tout notre pays. Et donc là, il y a la question sociale et après la question politique. La question politique est liée, quand on rentre chez quelqu'un, on sonne. Et puis, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux ne pas rentrer? Voilà. C'est normal que l'Europe s'interroge sur la perméabilité de ses frontières. Et donc, quand on va chez quelqu'un, on ne peut pas imposer sa présence à cette personne. Donc, il faut être... d'un côté, il y en a beaucoup qui vont... Il y en a certains qui vont accentuer, c'est le tout accueil. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est le tout politique. Il faut vraiment tout filtrer, voire créer donc des centres d'hébergement ou de filtrage dans les pays migratoires.
Est-ce à dire que vous donnez raison en partie donc au ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et en fait à l'attitude de l'Italie qui d'une certaine manière a tapé très sévèrement du poing sur la table en disant on ne peut plus assumer
une crise en grec, c'est deux choses, c'est un jugement de vérité et c'est un changement. Donc il y a un jugement de vérité. On va regarder les chiffres. Les chiffres, on les a. Les pays de l'Est ne veulent pas accueillir. Les pays de l'Ouest accueillent. C'est surtout l'Allemagne qui a accueilli. La France n'a pas tellement accueilli. Et les Italiens, si on regarde les chiffres, accueillent un peu moins de deux fois plus que la France. Bon, c'est vrai que c'est la porte d'entrée de cette vague migratoire. La question, c'est aujourd'hui dans la réalité. Et c'est là où je voudrais revenir sur ce rapport des deux députés.
Alors éclairez-nous, parce que j'avoue que je ne l'avais pas vu ce rapport.
C'est ce rapport de François Cornu-Genti de La République, de Les LR, et Rodrigue Coquendo de La République En Marche, qui ont fait un rapport, donc, qui l'ont envoyé au Premier ministre sur La République en échec, sur la Seine-Saint-Denis. Des chiffres très plausibles, entre 150 000 et 400 000 clandestins en situation irrégulière.
Pour ce seul département.
Pour ce seul département. Alors, c'est le département le plus représentatif d'une politique d'accueil en difficulté. Donc, c'est intéressant de voir, après tous les indicateurs, c'est un. un département où la pauvreté explose depuis 4-5 ans, les bénéfices, c'est-à-dire des minima sociaux explosent, les populations habitant dans les quartiers qui sont soumis à une politique de la ville explosent pour des raisons objectives. Et en même temps, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, et alors on est en difficulté pour avoir une évaluation sociale objective et prendre des mesures. Voilà. Donc,
peut-on être plus généreux ? Parce que dans le fond, c'est peut-être la question qui traverse en fait la situation politique française, et puis c'est parfois ce que se disent les chrétiens en entendant les demandes répétées du pape François à cette adresse. Peut-on être plus généreux, ou faudrait-il être généreux autrement, à vous entendre ?
Alors moi, je pense qu'il faut être très généreux pour ceux qui sont là, mais il faut se poser la question de ceux qui peuvent ou doivent venir, parce que derrière il y a un petit peu l'angle mort de se dire mais comment nous on peut vendre à des gens qui vivent certes dans des pays en difficulté, pour la question seulement économique, de se dire nous on est le miroir, on est le pays qui doit, ou la zone qui doit résoudre les problèmes économiques. Monsieur Macron, donc, il est actuellement à Lagos, au Nigeria. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'était intéressant. Il dit qu'il invite tous les jeunes entrepreneurs, l'Afrique aux Africains. Hein. Bon, il n'y a pas de trop parallèle à cette invitation-là, mais l'avenir des jeunes, elle est en Afrique. Et c'est vrai que l'avenir des jeunes, elle est en Afrique. L'Afrique explose d'un point de vue économique, hein, quand même, 8% de croissance. Alors le problème de l'Afrique, ça va être comment croiser développement économique et développement démographique.
Bruno Cyr, faut-il être plus généreux ? Ou alors en tout cas, qu'est-ce que vous répondriez à ce que vient de dire ? Vous me direz, ça fait un peu à ce que vous disiez. Ça faisait partie en fait des sujets du sommet de renflouer le fonds pour l'Afrique. Je ne sais pas à quelle hauteur, ou en tout cas, est-ce qu'il a juste été rappelé par le président du Conseil européen, Donald Tusk, que chacun devait mettre au pot ? Faut-il être plus généreux ou généreux autrement ?
Oui, moi je dirais deux choses. Il faut être plus généreux autrement. Première chose. Et deuxième chose, il faut arrêter de victimiser un certain nombre de gens. Je trouve que ça, ce n'est pas une bonne façon d'aider les gens. Donc, nous, premier point, est-ce qu'on a les moyens de permettre à un million d'individus, si on ouvre toutes les vannes...
100 000 demandeurs d'asile, en tout cas, cette année, en France.
Voilà. En quelques années, on a absorbé un million d'individus, et si on continue, qu'est-ce qu'on a à leur proposer ? De la précarité, du chômage, des solutions qui sont absolument pas satisfaisantes. Et... En contrepartie de ça, on les déracine, on les amène à renoncer à leur culture, etc. Donc je pense que c'est pas là qu'il faut être généreux. Ça, évidemment, il faut faire face à l'urgence et essayer humainement d'aider les gens. Mais il faut arrêter de trop travailler dans ce sens pour travailler dans le sens de quels sont les rapports commerciaux, industriels, agricoles qu'on maintient avec l'Afrique. Est-ce qu'on est prêt, nous, en France, en Europe, à renoncer à des emplois pour permettre à des Africains, par exemple, mais ça pourrait concerner d'autres pays, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, d'avoir des emplois en nous vendant des produits. Parce que tout le problème est là. C'est que vous avez tout un tas de gens en France qui refusent qu'on délocalise, qui veulent mettre des barrières douanières, etc. Et donc, qui vont maintenir dans la pauvreté un certain nombre de pays, dont la seule force est le travail. Il faut absolument enclencher des processus de développement en faisant du commerce avec ces pays-là. C'est la seule façon de faire. Et moi, je pense qu'on a là-dessus une réflexion collective à mener pour dire quelles sont les délocalisations d'emplois qu'on est prête à accepter pour aider tel ou tel pays.
Vous pensez à quel emploi en particulier ?
Mais des emplois qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, évidemment, puisque c'est là qu'est le problème. Donc ça peut être dans le textile, où ça c'est déjà fait. Ça peut être dans l'industrie automobile, ça peut être dans un tas d'emplois qui ne demandent pas des qualifications énormes. Et ils ont les cadres parce qu'ils sont formés en Amérique du Nord ou en Europe.
Mais quand on est à 10% de chômage en France, c'est un peu audacieux quand même comme proposition.
Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Vous trouvez que c'est mieux d'avoir des gens qu'on ne sait même plus compter et qui viennent dans des situations de précarité extrême dans notre pays? Je trouve que ça, c'est la pire des solutions. Et ce n'est pas parce qu'on va donner un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Vous savez, moi, sur cette question, je trouve qu'il y a un grand ménage à faire parmi les ONG. Beaucoup d'ONG ont un rôle très négatif. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas, et pourtant tous les gens qui sont sur le terrain le savent.
Explicitez votre propos.
Eh bien, il y a des ONG formidables qui aident les gens, et d'ailleurs il y a un certain nombre de jeunes qui s'engagent dedans à développer de l'activité économique dans leur pays, mais il y a un tas d'ONG qui vont dans ces pays-là, qui leur tiennent un discours en leur disant « Vous êtes les victimes d'un système, montez dans des bateaux, on va vous aider, on vous accueillera en France ». Ce type d'action menée par des ONG, c'est dramatique. Parce qu'on n'aide pas quelqu'un en lui donnant un sac de riz, on aide quelqu'un en lui apprenant à cultiver du riz. Et je trouve que c'est ça.
Mais entre lui apprendre à, comment dire, entre lui donner du riz et lui dire « Vous êtes des victimes et allez dans... » Allez, en Europe, il y a quand même une différence. Vous tenez de sources sûres, parce que c'est quand même...
Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé en Afrique et qui vous disent, il y a beaucoup d'ONG, parfois consciemment, qui maintiennent dans la pauvreté l'Afrique. Et ça, c'est dramatique.
Alors, qu'il y ait des intérêts cachés, géopolitiques de maintenir sous une domination certains pays d'Afrique pour avoir soit des main-d'œuvre pas chère, soit simplement un lieu de fourniture de matières premières ou...
Exactement.
Ou voilà. Chacun doit faire son examen de conscience. Moi, je renverserai quelques idées qui viennent d'être émises en honorant le travail des ONG sur place où il y a depuis une bonne dizaine d'années un changement de paradigme dans les interventions des ONG où on accompagne les projets qui viennent du lieu.
Les ONG dans le même sac. Je dis qu'il y a beaucoup d'ONG.
C'est ce qu'on appelle le microcrédit, entre autres.
On accompagne la vie. Alors, le problème pour beaucoup, c'est un petit peu la culture qui accompagne les représentations sociales de ces pays en voie de développement. Ils voient à la télé, ils voient dans les médias, ils voient dans la presse des images de richesses de nos pays qui donneraient la joie, la vie, plus que dans leur pays. Alors que lorsqu'on va sur le terrain, moi je vais en Afrique de temps en temps, quelle joie de vivre dans les villages, quelle valeur, il y a d'énormes valeurs. Donc tout l'enjeu, c'est de valoriser la culture que ces gens ont. Ils ont des très grandes richesses culturelles qui ne sont pas les nôtres.
On est tout à fait d'accord.
Qui complètent les nôtres.
C'est exactement ce que je dis, mais je dis que toutes les ONG, malheureusement, ne sont pas dans cette logique-là et ont un discours de victimisation qui n'est pas bon. Et je suis d'accord avec le président Macron quand il va en Afrique et qu'il dit « c'est vous qui devez vous prendre en main, c'est vous qui devez, nous vous aiderons à créer du travail, nous vous aiderons par du commerce, etc., par du transfert de compétences ».
Je vous propose qu'on fasse une pause. Avant cette pause, je voudrais juste clarifier une ou deux choses. Par exemple, on a beaucoup entendu que la France, en fait, n'avait pas fait sa part. Circulent sur cela des chiffres assez différents. Je rappelle qu'en 2015, déjà, les Européens s'étaient mis autour de la table pour essayer de trouver, pour un plan de prise en charge conjoint. La France s'était engagée à accueillir 19 714 migrants et on n'en aurait accueilli que 5 000. Voilà. Donc, et en même temps, la proportion de la France est à peu près celle de l'Europe, c'est-à-dire d'un peu plus de 1 000 primo-demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. On n'est pas dans la fourchette haute, hein, la Grèce, ils sont à plus de 5 000, et le Luxembourg aussi, à plus de 3 000, bref.
Oui, mais vos chiffres, est-ce qu'ils intègrent les clandestins ? C'est très compliqué les statistiques sur cette question-là. Voilà.
Il y a plus de 80% de clandestins.
On n'arrive pas à les comptabiliser en même temps.
Le réel, c'est
la présence de clandestins. S'il y en a 400 000 en Seine-Saint-Denis.
Il y a 80% des
Seine-Saint-Denis, combien il y en a en France? Il y en a plus d'un million. Plus d'un million en France. Un million et demi. Donc la question, elle n'est pas simplement d'accueillir, elle est une question politique, c'est-à-dire quelle décision on va prendre pour qu'il y ait un projet d'accueil, un projet d'adhésion d'une population à accueillir. Moi j'aime bien cette citation, je la cite, hein, le mal du pays dans leur propre pays. Voilà comment Finkielkraut, je dirais, stigmatise un petit peu le comportement des Français à l'égard de l'accueil des migrants, parce que c'est pas simplement l'accueil des migrants dont on a reconnu qu'ils peuvent venir, qu'ils doivent être répartis, c'est tous les autres. Et là il y a un double discours, et comme il n'y a pas de statistiques, on est obligé de prendre des lieux témoins, et je trouve que la Seine-Saint-Denis, c'est un super lieu témoin qui pose des vraies questions réelles et pas simplement des idées.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Donc, pour rappel, émission d'actualité mensuelle avec aujourd'hui Bruno Cyr, donc président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, et Tanguy Marie Pouliquen, religieux, prêtre de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique sociale à l'Institut catholique de Toulouse. Comme je l'avais promis, donc, on va parler donc de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. C'était à Singapour le 12 juin dernier, poignée de main donc historique s'il en est, après des tweets rageurs de part et d'autre, une menace de Donald Trump à la tribune de l'ONU de rayer de la carte la Corée du Nord, rien que cela. En sortant, Donald Trump, comme à son accoutumée, a eu cette phrase: c'était vraiment une rencontre fantastique. Et le dictateur nord-coréen, lui, a parlé d'un film de science-fiction. Bref, il était question
de... Ce n'était pas un film de science-fiction.
Ce n'était pas un film de science-fiction. Oui, en effet. Il était question donc de la dénucléarisation donc de la péninsule nord-coréenne. Il y a déjà des doutes qui ont été émis sur les pas que sont prêts à faire la Corée du Nord. Pour rappel et introduire un petit peu le propos, pas mal de questions autour de cette rencontre. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours officiellement en guerre, puisque il n'y a eu, si je ne me trompe pas, qu'un accord de principe pour mettre fin à cette guerre, guerre de 1950 à 1953. Que vous a inspiré cette poignée de main frappante, quand on connaît un petit peu ce qu'il y a derrière? On connaît un petit, je dis bien un petit peu, hein. Bruno Cyr.
Moi, je suis un peu effaré. Je trouve que les grands pays démocratiques ne doivent pas pactiser avec les dictateurs. Ça n'a jamais bien fini pour les démocraties. Et ça a toujours renforcé les dictatures. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On a l'impression de revenir dans les années 30 avec Hitler. Vous avez le représentant de la plus grande démocratie du monde qui va faire des courbettes à un dictateur insupportable, de mon point de vue, d'un petit pays, 25 millions d'habitants, c'est quoi? Et qui va lui donner une audience, le légitimer, il va continuer à martyriser son peuple sans vergogne.
Le fond de la démarche n'était pas de travailler à le légitimer.
C'est le résultat, parce que le résultat des courses, c'est le grand vainqueur, c'est quand même Kim Jong-il. Je vois très bien, lui, ce qu'il a gagné. Il a gagné une grande légitimité.
Qu'a-t-il gagné, alors?
Les États-Unis, bon, ça, grâce à sa bombe atomique, il a maintenant une espèce de parapluie et il pourra faire ce qu'il veut, personne ne l'embêtera. Premier point. Et deuxième point, les États-Unis viennent lui dire: ah, c'est fantastique de vous rencontrer. Ben moi, je suis effaré. Donc lui, évidemment, là, il a un grand sourire, il est grand vainqueur. Toute la presse a fait cette analyse dans le monde entier. Et le grand perdant, pour moi, c'est les États-Unis qui sont allés se dévoyer. Moi, je trouve que...
Pourtant, on dit que la seule solution, c'est une solution diplomatique. Qu'aujourd'hui, l'escalade militaire, de toute façon, ne menait nulle part.
Oui, si on veut, on peut dire ça. Mais de toute façon... Ça mène nulle part. Ça mène là où les Chinois veulent que ça aille. Et je m'explique. D'abord, il faut comprendre la psychologie des dictateurs. Tous les dictateurs, et je pense qu'ils n'échappent pas à la règle, sont de grands paranoïaques.
C'est ce qu'on dit, en tout cas, de Kim Jong-un.
Mais de tous. Staline...
On ne dit pas que ça de lui.
Mais non, c'est des grands paranoïaques. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est des gens qui ont peur qu'en permanence, on leur pique leur pouvoir parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Évidemment, ça n'arrive pas dans les démocraties. Mais les dictateurs, c'est le cas. Et lui, c'est un grand paranoïaque. Or, un grand paranoïaque, c'est une question de survie, c'est ça le propre de sa paranoïa, que de mentir. Un paranoïaque, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc quand il vous dit « je vais réduire mon arsenal nucléaire », je crois qu'il faut absolument pas le croire. Et d'ailleurs, Le Monde le disait, mais vous en avez un peu évoqué, il y a des images satellites qui, dimanche 1er juillet, montrent que la construction de nouveaux bâtiments sur les sites balistiques de Corée du Nord est en train de se faire. Et ces images satellites, je cite Le Monde, viennent s'ajouter à d'autres publiées à la fin du mois de juin qui laissent supposer le maintien d'une activité sur un autre site coréen de recherche nucléaire, etc. Donc évidemment qu'il ne faut pas croire ce type-là, c'est une illusion. C'est la même chose quand on est allé voir Hitler, ça n'a pas réglé le problème. Où est la solution? La solution, c'est la Chine. Vous ne pouvez pas imaginer...
Enfin, 85% des exportations nord-coréennes sont achetées par la Chine.
Non, mais la Chine...
Mais à l'inverse, 83% des marchandises entrant en Corée du Nord proviennent de la Chine.
La même logique que toutes les grandes puissances, Elle a besoin d'une espèce de cordon sanitaire autour d'elle. La Corée a une frontière directe avec la Chine.
Il quel pas... cordon aussi, hein, quand même.
Voilà, mais il... oui, quel cordon, ça je suis d'accord avec vous. Mais enfin, Staline n'avait pas fait mieux. Et la Corée, il n'est pas question que les Américains mettent un pied en Corée du Nord parce qu'ils seraient directement menacés sur la frontière chinoise. Donc derrière ce pays de 25 millions d'habitants, qui est quand même un pays complètement misérable, parce qu'ils ont quand même tout foutu par terre, enfin le père, le fils, le grand-père même, ils s'y sont employés.
40% de la population, pardon, je donne quelques chiffres, parce que c'est quand même vraiment 40% de la population qui souffre de malnutrition.
Ben voilà, donc il y a des gens qui meurent de faim, etc. Vous croyez que ces gens-là sont capables de fabriquer une bombe nucléaire à eux seuls? Évidemment que c'est les Chinois qui sont derrière. Enfin, ou alors il faut m'expliquer. Donc les Chinois sont derrière, les Chinois veulent ce cordon, les Chinois ont obtenu que les Américains ne foutent plus un pied là et laissent les Chinois régler tranquillement ce qui se passe en Corée du Nord. Et je pense que les grands vainqueurs, ça ne se dit pas, mais là-dedans, c'est les Chinois. Ceux qui tirent les ficelles, c'est les Chinois. Donc je ne vois pas ce que les Américains vont foutre là. Et moi, je n'ai aucun souci. Kim Jong-il, ils ne lui laisseront
Kim
pas...
Kim Jong-un.
Kim Jong-un.
C'était le père, Kim Jong-il.
C'était le père. Mais ni son père, ni lui, ne va tirer une bombe atomique sur le Japon ou les États-Unis sans la permission des Chinois, qui de toute façon sont derrière les manettes.
Difficile d'y voir clair, hein, parce qu'on lit aussi dans la presse que, voilà, que les Chinois, aujourd'hui, n'auraient plus la main sur la Corée du Nord, parce qu'elle aurait la bombe atomique. Bon. Tanguy Marie Pouliquen.
Alors, moi, je pense que c'est très intéressant ce qui se passe. C'est-à-dire de dialoguer avec ses ennemis. Bon, l'amour des ennemis, c'est très évangélique. Hein, mais ça commence déjà, à minima, par le dialogue, le face-à-face. Se regarder, se rencontrer. Et pas seulement derrière des coups de téléphone et des écrans. En son temps, Jean-Paul II, il a fait évoluer largement les lieux où il y avait des dictatures, Villeda en Argentine, Pinochet au Chili, bon, Jaruzelski, n'en parlons pas en Pologne. C'est en dialoguant avec, entre guillemets, son ennemi, qu'on lui donne la possibilité d'évoluer. Moi, je crois que c'est très important. Ce qui se passe.
Vous croyez vraiment que la Corée du Nord va évoluer tant qu'il y aura ce type à la tête?
Je pense que...
C'est vrai qu'on se demande pourquoi il n'a pas déjà été tué.
Je pense que il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut se rencontrer.
Avec la Chine.
Il faut estimer toujours la part estimable qu'il peut y avoir en chaque personne, même si elle est apparemment, aujourd'hui, mon pire ennemi, ça va de la vie en couple en France ou dans les relations internationales. Il ne faut jamais couper le dialogue. Nixon a bien manœuvré, en tout cas avec Mao en 72. Mao, c'était le pire des dictateurs. Grand bond en avant, grand bond en arrière. Révolution culturelle, c'est pas 10 millions de morts, c'était beaucoup plus. Et ça a permis, en son temps, alors c'est vrai que Mao est mort en 76, 4 ans après, etc. Et qu'après, la Chine s'est ouverte. Mais c'était des pierres d'attente qui ont été, je dirais, posées pour... progressivement permettre à la Chine, qui était au bord de l'implosion économique, voire sociétale, de rebondir. Donc,
mais comment conduire la Corée du Nord à la dénucléarisation quand on a un dictateur paranoïaque à sa tête?
On l'a vu avec la Russie. Ça a pris du temps. Ça prend du temps.
Commerçant, répondent certains.
Voilà, il faut se parler. Vous savez, il y a 5 enjeux dans la rencontre entre Trump et Kim Jong-un. C'est d'abord donc la dénucléarisation, enlever un climat de peur dans la sous-région, une dénucléarisation complète et vérifiable et irréversible. Après, mettre fin à la guerre de Corée. Pour l'instant, le Sud n'a jamais signé un traité de paix. Il y a simplement un armistice. La Chine a signé l'armistice. Et donc, créer un climat de vraie paix.
On dit à ce sujet que la Corée aurait fait quelques pas. Pas forcément à cause de la menace américaine, quoique, mais parce que la Corée du Nord va très mal. C'est-à-dire qu'il y a aussi de moins en moins de gens. Et que, du coup, la seule solution économique, ce serait d'arriver à commercer davantage avec la Corée du Sud.
C'était la même chose avec la Russie, avec l'URSS. C'était le rapport de force, il était cadré militairement, mais parce que tout l'argent de l'URSS est passé dans le complexe militaire, 35% du budget à l'époque de l'URSS était consacré aux dépenses militaires, et ça a pris sur les développements économiques. Donc c'est exactement ce qui se passe en Corée du Nord. C'est-à-dire qu'à vouloir surinvestir les budgets militaires, on infâme une population. Donc je pense que...
Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous.
Allez-y.
Parce que je ne pense pas que la Corée du Nord soit notre ennemi, ni l'ennemi des Américains. Quand vous dites qu'il faut parler avec son ennemi, mais quel est notre ennemi? La Corée du Nord n'est pas mon ennemi. La Corée du Nord, il y a un ignoble dictateur qui est en train de martyriser son peuple, d'affamer son peuple, etc. Mm-hmm. Faut-il qu'on légitime et qu'on cautionne ce type-là? Moi, je crois que ce n'est pas une bonne façon d'aider les pauvres gens qui souffrent de la présence de ce bonhomme.
Oui. Mais quand deux chefs d'État se rencontrent, c'est pas...
Et quand deux chefs d'État veulent évoluer...
Mais pourquoi est-ce que les...
Ça ne vaut pas toujours caution.
Qu'est-ce que les Américains vont retirer? S'il y a un résultat, c'est-à-dire s'il y a une dénucléarisation, je dirais ils ont bien joué, mais moi je n'y crois pas une seconde. Et vous voyez bien que le lendemain même du sommet de rencontre, on voit qu'ils continuent.
Mais ils n'ont pas fait ça dans la nuit en même temps, donc personne n'était dupe, y compris les Américains. Ils n'ont pas construit en une nuit...
Il n'y a pas de dénucléarisation, c'est ce que je constate, tout le monde le constate.
Il n'y a plus d'essais nucléaires, on ne lance plus des engins pour faire des essais
Les essais nucléaires...
En l'air, donc on ralentit. Donc ralentit des processus de menace.
Il a ralenti le jour où il avait démontré qu'il maîtrisait les choses. Mais nous, c'est pareil, on ne fait plus d'essais nucléaires, ça veut dire qu'on est quand même une puissance nucléaire. Une fois que vous avez mis au point votre bombe, ça va, c'est fait. Et lui, il a démontré qu'il était capable de le faire. Donc là, maintenant, tout le monde le respecte et il dit, j'arrête les essais. Ben, nous aussi, on les a arrêtés.
Quelle solution, Bruno Sierre?
Évidemment qu'il faut...
Mettre la pression sur la Chine, c'est
ça ? Il faut discuter avec les Chinois, bien évidemment. Et je trouve que c'est... les Américains sont rentrés dans une guerre commerciale avec la Chine qui n'est pas saine. Et je pense que c'est plutôt du côté de la Chine qu'est la solution. Parce que la Corée du Nord, franchement, 25 millions d'habitants, c'est un petit pays qui est économiquement, qui pèse rien du tout. On ne peut pas comparer ça avec la Russie, qui représentait la moitié de la planète en superficie, enfin j'exagère, mais qui représente le plus grand pays de la planète. Donc il faut comparer des choses comparables. Ce petit pays, sans la Chine, ne peut pas vivre. Il faut discuter avec les gens qui maintiennent ce dictateur et essayer de les amener à leur dire que ce n'est pas la solution de maintenir... Mais on avait le même problème ici avec l'Albanie, hein. Pour moi, la Corée du Nord, c'est comparable à l'Albanie ici. On n'a pas été discuté avec Ojda à l'époque. On a cerné Ojda, on a discuté avec les gens dont il avait besoin pour l'amener à la raison. Et essayer de trouver une solution démocratique pour ce pays qui puisse foutre cet ignoble dictateur dehors. Moi, je pense qu'on n'a jamais intérêt à discuter avec des dictateurs.
Pardon, excusez-moi, c'est pas pour vous couper, mais je vois le temps qui passe et j'aimerais qu'on parle aussi d'autres sujets. Je citerai juste donc ce rapport de l'ONU, c'était en février 2014, qui demandait à ce que Kim Jong-un soit poursuivi devant la Cour pénale internationale. Rapport qui, je crois, dans son introduction, en tout cas quand il a été présenté, celui qui l'a présenté a dit la chose suivante: on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Travaux forcés, exécutions, tortures, privation du droit de se reproduire à travers des punitions, des avortements forcés, des infanticides. J'ai vu des choses atroces sur ces fameux camps de la mort nord-coréens où on jette des enfants aux chiens. Bref, un régime absolument abominable qui est le point noir aussi, il faut le dire, de la persécution des chrétiens dans le monde. On va faire une rapide pause et on va parler adoption des enfants par les couples homosexuels.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, pour rappel pour ceux qui nous prendraient par hasard en cours de route, et émission où on revient sur l'actualité et les grandes actualités du mois. Et nous sommes avec Bruno Cyr, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, et Tanguy Marie Pouliquen, prêtre à la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique sociale à l'Institut catholique de Toulouse. Une autre actualité que je voulais aborder avec vous, c'est donc le 18 juin dernier, un certain Pascal Lemarre, qui est responsable du service adoption du département de Seine-Maritime, a tenu des propos sur France Bleu Normandie, disant que les couples homosexuels étaient des couples atypiques, et donc qu'ils, quelque part, on devait en priorité leur adresser ou leur proposer des enfants qui sont dans des situations elles-mêmes un peu atypiques. Et il parlait entre autres des enfants porteurs d'un handicap. J'ai pas exactement les propos, mais bref, c'était l'idée. J'ai trouvé un article du journal Têtu, donc journal qui évidemment défend les personnes homosexuelles, qui se scandalise de tels propos. D'ailleurs, je crois que ce fonctionnaire a entre-temps été sanctionné. C'est l'occasion peut-être de parler donc du mariage homosexuel et de l'adoption qui a été ouvert donc par la loi Taubira. Je donnerai juste un chiffre. C'est environ 7000 mariages gays et lesbiennes qui sont prononcés chaque année, et on ne sait pas combien d'adoptions, mais semble-t-il pas beaucoup. Tanguy Marie Pouliquen, qu'est-ce que ça vous inspire?
Pas beaucoup du tout, hein. Inférieur à 10, inférieur à une main. Alors évidemment, d'un côté, certains crient à la discrimination, au sein même d'une discrimination des sexes. Bon, les couples homosexuels ont facilement l'agrément, mais lorsqu'ils passent devant le conseil de la famille, qui les secoue bien dans leur capacité à être parents, les résultats sont faibles. Alors c'est vrai que il y a une porte qui se ferme quasiment automatiquement, c'est la possibilité d'adopter des enfants venant de l'étranger. Hein. Il y a que 6 pays au monde qui permettraient en droit à des Français, un couple français, d'adopter.
Et de moins en moins depuis la loi Taubira.
Voilà, donc en gros, il y a... Et d'ailleurs, les adoptions en France ont baissé de 50% depuis 4-5 ans. Il n'y a que 700 enfants étrangers qui sont adoptés. Et donc, l'adoption d'enfants étrangers est fermée. L'adoption en France, se compte sur le doigt d'une main. Alors évidemment, ça rebondit la question de fond du mariage pour tous, de la manif pour tous. C'est la question donc de est-ce que la parentalité peut se substituer à la parenté? Voilà, la parentalité, c'est la capacité d'éduquer socialement un enfant, et la parenté, c'est la capacité de s'identifier à ses origines à travers ses parents, qui sont des parents de sang. Derrière, certains y voient très positivement, à travers la différence sexuelle, un lieu d'identification, une richesse pour l'enfant d'accueillir de manière paradigmatique hommes et femmes, une ouverture à l'altérité. Alors d'autres vont mettre l'accent sur cette ouverture sociale qui garantirait à sa manière aussi. Alors la position de l'Église, c'est de dire il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a les droits de l'enfant. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe en pratique dans ces conseils de famille, où le critère sera toujours de se dire quels sont les besoins de l'enfant. Et c'est en fonction de ces besoins de l'enfant que non pas la réflexion idéologique ou culturelle seulement, mais la réalité vécue détermine le choix.
Donc, un président du conseil de la famille d'un autre département a tenu les propos suivants, que j'ai vus en tout cas dans la presse. On n'a rien contre les couples de même sexe, mais tant qu'on aura des couples jeunes, stables, avec un père et une mère, on les privilégiera. Bruno Cyr, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est un sujet extrêmement difficile. Je crois qu'on est dans une période où on a reconnu comme un fait normal l'homosexualité. Et c'est un progrès, incontestablement, parce que pendant très longtemps, l'humanité a refusé de voir en face un phénomène réel. Et évidemment qu'à partir du moment où l'homosexualité est reconnue, la question suivante, c'est mais alors nous aussi, on aimerait avoir des enfants. Et là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire le père et ce que dit le pape. On n'a pas un droit à l'enfant. C'est pas parce qu'on a le droit de vivre en couple de façon homosexuelle qu'on aurait le droit d'avoir un enfant.
Mais c'est une disposition légale aujourd'hui. On est presque sous le coup de la loi, non, de dire les choses pareilles. C'est...
Ben, oui, mais éthiquement, si vous voulez. C'est, je pense que si on accepte l'idée que j'ai le droit d'en avoir un enfant, ça veut dire qu'on accepte l'idée, puisque l'adoption, on le voit, c'est compliqué, de la gestation pour autrui. Donc, en fait, le vrai débat de fond qu'on a, c'est ça. C'est la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui. Et là, au risque de vous choquer, c'est un progrès scientifique. C'est un progrès des hommes. Hein. La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, c'est le résultat d'une évolution scientifique. Or, a-t-on vu une fois dans l'humanité l'homme ne pas se servir d'un progrès scientifique? Eh bien, moi, je vous dis jamais. Chaque fois qu'il y a eu des progrès, la science a permis de faire des choses nouvelles, les hommes les ont utilisées.
Mais est-ce que ça rentre pas, vos propos rentrent eux-mêmes en contradiction? Vous dites qu'il n'y a pas de droit à l'enfant et en même temps vous laissez entendre que la procréation médicalement assistée est, un progrès qui devient une nécessité.
Enfin, un progrès scientifique. Ça ne veut pas dire que c'est un progrès pour l'homme. Hein. Moi je crois qu'il faut distinguer quels sont mes droits et mes devoirs. Et dire je ne suis pas en mesure en couple d'avoir un enfant, mais j'ai le droit d'en avoir un quand même, ça me choque. Alors les gens qui sont stériles, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai le droit aussi. Bon, donc je pense que c'est pas sur ce plan-là moi que je veux le placer. Je veux le placer dans le fait de est-ce que on est prêt à aller jusqu'à la gestion pour autrui? Je pense que l'humanité y est. Dans ce fait-là, et que notre problème à nous, c'est un problème éthique. C'est-à-dire, au fond, ce que disait Rabelais, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pas parce qu'on a le progrès scientifique qui nous permet d'eux, et qu'effectivement on va le faire, qu'il ne faut pas se poser la question de la conscience. Donc je crois qu'au fond, le premier qui a posé les bases de la bioéthique, parce que le problème est un problème bioéthique, c'est Rabelais, d'une certaine façon, avec cette phrase. Il faut mettre de la conscience derrière le progrès scientifique. Mais dire qu'on va arrêter ça, c'est une illusion. Je pense que nous sommes dans une situation mondiale, hein, qui n'est pas propre à la France, où effectivement la gestation pour autrui sera la solution qu'on va proposer aux couples homosexuels.
En tout cas, bon, c'est un sujet qui fait partie des révisions des lois de bioéthique. Il n'est pas encore, ça n'est pas encore légalisé en France, même si on dit qu'il y a une forme de légalisation indirecte, puisque on peut faire reconnaître après dans l'état civil un enfant qu'on est allé, se faire, je ne sais pas comment il faut le dire, à l'étranger. J'ai juste retrouvé, peut-être pour finir, et je vous laisserai à la fin de l'émission. Je vois que ça touche à sa fin. Des propos de Monseigneur Michel Aupetit. Il n'était pas encore archevêque de Paris. Il rappelait la convention de New York de l'ONU en 1991 qui affirme le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Il a dit bien d'autres choses, mais je voulais reciter ça. Tanguy-Marie Pouliquen.
Derrière la question de toutes ces procréations nouvelles, c'est la question de qui est cet enfant? Est-ce que c'est simplement un épiphénomène de l'histoire biologique, ou est-ce qu'il est traversé par un projet créateur, un projet divin, un projet de bénédiction qui est confié à une famille, qui est confié à des parents? Est-ce que l'identité de l'humain, n'est-ce pas de naître dans une famille pour pouvoir avoir la grâce d'avoir un papa, d'avoir une maman, ou la parenté va s'enrichir de la parentalité apportée par les mêmes parents ou par la famille élargie, les oncles. Donc derrière, si on cadre pas la dérive, on dérive avec le cadre. Et je pense qu'à travers les questions bioéthiques, aujourd'hui, nouvellement d'actualité, une PMA élargie ou une GPA de circonstances, on dérive avec le cadre. On sort de cette vision créatrice un petit peu originaire. L'enfant s'inscrit dans un projet de relation et non pas, il ne peut pas y avoir d'instrumentalisation du corps de la femme. On ne peut pas instrumentaliser le corps de la femme. Ça peut ne pas être un projet de société.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ça ne peut pas être un projet de société qui rassemble à long terme la société et qui l'unit en profondeur.
Mais on est face à ce problème et il faut le traiter.
Il faut le traiter, ça sera l'objet donc des révisions des lois bioéthiques. Je me souviens juste, on fait des émissions spéciales à l'occasion de ces révisions, d'un professeur de médecine au CHU de Toulouse qui justement tenait hors antenne ses propos, disant en fait c'est le projet parental qui prime sur l'enfant. En tout cas, c'est ce qu'il disait et c'est probablement une des thématiques qui vont traverser ces prochaines révisions des lois bioéthiques. Merci beaucoup d'être venu pour cette dernière émission d'actualité. Rendez-vous est donné à la rentrée. Pour vous et avec d'autres, un grand merci à vous de votre participation au long de cette année. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous au mois de septembre.